Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Frédéric Farah qui est professeur d'économie, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie.
Et patronne et des fonctionnaires.
Patronne de PME, tout à l'heure.
Moi j'aimerais bien que Barbara soit nommée patronne des fonctionnaires, je suis sûr que ça serait bien géré.
Oh là là.
Voilà.
Ouh là là.
Tous les fonctionnaires seraient d'accord.
Ouh là là.
Je prends Frédéric comme conseiller.
À 11h.
Oh, j'adore. Ah oui, je suis d'accord.
À 11h.
Entre 11h, hein.
Nous serons avec Maud Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, pour commenter avec elle ce qu'a dit le Premier ministre, à savoir qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts sur les classes moyennes. Est-ce qu'on est dans le pipotage ? On verra ce qu'en dit la députée Renaissance.
Ça a changé en quelques jours parce qu'on a reçu Bruno Le Maire lundi. Il nous dit pas de hausse d'impôts. Et donc, mercredi, Gabriel Attal nous dit pas de hausse d'impôts, mais pour les classes moyennes. Ça sent le tourloupe. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'on est en train de se dire, on va quand même augmenter les impôts pour certains.
Et si elle nous écoute, on peut déjà lui demander. Mais alors, on devait même donner 2 milliards d'économies pour les classes moyennes.
Oui, on avait prévu des baisses d'impôts.
En fait, au moins, il n'y aura pas de hausse, mais et la baisse.
Et la baisse. C'était une promesse présidentielle.
Ah oui, et c'était il n'y a pas très très longtemps. Je crois que c'était il y a 3 ou 4 mois.
Non, et mais Bruno Le Maire, lundi, nous a dit qu'elle serait tenue, cette promesse.
Ah, bah, je pense qu'il faut qu'il refasse un séminaire gouvernemental pour se mettre vraiment bien d'accord. Parce que là, on y comprend plus rien.
Allez, parlons des produits transformés.
RMC, les grandes gueules.
C'est une enquête intéressante, une de plus, me direz-vous, du FC Que Choisir qui dénonce ce que UFC Que Choisir appelle l'opacité des aliments transformés. Opacité sur l'origine des aliments. En fait, ils ont pris 243 aliments transformés et le constat est accablant.
Oui, alors selon cette étude, c'est pour les céréales et les légumes que le manque d'informations le plus marqué. 84% d'ingrédients de ces produits n'ont aucune origine précise mentionnée. Ensuite, il y a les volailles, le porc, le bœuf, on ne sait pas d'où ça vient, dans les plats transformés. Hein. Alors ensuite, ils ont regardé marque par marque, et là, ils se rendent compte aussi qu'il y a des différences. Par exemple, la marque Marie donne l'origine précise de plus de 8 ingrédients sur 10 pour ces plats préparés. Bravo à Marie. En revanche, Fleury Michon, grande marque, ne le fait que pour moins d'un ingrédient sur 5. Autre exemple, Bonduelle.
C'est la même chose.
Bonduelle communique la provenance précise pour plus d'un légume sur 2. Bravo Bonduelle. Mais Casse-Grain ne le fait que pour moins d'un légume sur 10. Donc c'est quand même un problème.
Un problème, Casse-Grain. Hein. Si tu nous écoutes, Casse-Grain, ce serait bien de venir.
Si Monsieur Casse-Grain nous écoute.
Monsieur ou Madame Casse-Grain, vous êtes demandé à l'accueil.
Olivia Grégoire, la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, doit annoncer d'ici le mois de mai l'Origine Info, un nouveau label, Origine Info. Ah. C'est un visuel qui va présenter de manière synthétique les différentes origines des ingrédients composant un aliment. Le problème, c'est que cet affichage sera a priori sur la base du volontariat.
Casse-Grain, tu peux rester comme
l'association UFC Que Choisir demande à la ministre de rendre obligatoire cet affichage.
Te casse pas la tête,
comme le permet en plus un règlement européen.
Alors,
t'inquiète pas, personne va venir t'embêter.
Alors, est-ce que c'est
reste comme tu es, Casse-Grain, dans la bonne direction.
Est-ce que franchement, c'est un problème? Ou pas,
bah oui,
ou est-ce que finalement vous faites confiance aux marques
quand même, je sais pas, t'as un produit sur 10 où tu sais d'où il vient ou qu'est-ce que c'est.
Regarde, est-ce que ça empêche
les gens d'acheter?
Non, à la base, quand tu achètes du produit industriel hyper transformé, est-ce que tu te préoccupes de la bonne qualité de ce que tu manges?
Non.
Donc pourquoi est-ce que tu voudrais connaître l'origine?
Attention, il y a certaines catégories de personnes qui n'ont pas le choix. Des gens qui préfèrent t'acheter un truc à 4€ près préparés qui chauffent au micro-ondes pendant la pause déjeuner, mais qui n'ont pas de ticket resto, qui n'ont pas de quoi manger dans un repas ou dans un restaurant ou dans un truc. Je suis désolé, Barbara, il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. faut le regarder aussi à moitié plein.
Alors, c'est
des gens qui,
c'est là que
il y a une certaine partie des personnes qui achètent ces plats préparés à réchauffer, hein, qui n'ont pas le
choix. C'est là que je vais te répondre. Nostalgie, il y a pas si longtemps, je me rappelle que mon grand-père, et mon grand-père, bon certes, hein, il était né en 1919, mais bon, moi je me rappelle
si
dans les années 80 encore, ma grand-mère et lui d'ailleurs, parce qu'il cuisinait aussi, il se faisait à manger, il se mettait ça dans une petite boîte, et il allait manger, et tous les midis, il mangeait le plat qui avait été cuisiné. Nous vivons dans un monde où cuisiner, tu peux congeler ce que tu as cuisiné, le réchauffer rapidement, et tu vas m'expliquer que non, tu n'as jamais le temps de cuisiner, tu peux pas congeler. Et à l'époque, je te parle de mes grands-parents qui n'avaient même pas de congélateur. Donc mon grand-père, ma grand-mère,
parce
elle se faisait là.
Ils passaient plus de temps. Et maintenant,
mais ils travaillaient pas 35 heures par semaine.
Oui, mais Barbara, ce temps-là, on veut le consacrer à autre chose.
Mais comment ils faisaient pour aller faire les courses et faire à manger? Oui, non. Alors, excuse-moi, le loisir. Apparemment, les gens vont même plus au cinéma, ils regardent Netflix. Donc, excuse-moi.
C'est un loisir.
On a, tout à l'heure, Mehdi s'est énervé sur les gens qui voulaient pas aller à faire 80 km pour travailler. Mais excuse-moi, les gens qui trouvent même pas un quart d'heure pour cuisiner.
Oui, mais
ils sont obligés d'acheter des plats cuisinés. Faut arrêter de me faire rigoler.
Que tu as fait le procès de ceux qui utilisent.
En fait, pendant des décennies, les ouvriers travaillaient à l'usine, ils amenaient leurs gamelles.
Vous avez des belles années devant vous parce que vous avez, en Barbara Lefebvre, votre première avocate. En fait, ce n'est pas de votre faute, monsieur Cassegrain ou madame Cassegrain. Si vos produits, vous ne dévoilez qu'un produit sur 10, c'est de la faute des gens qui vous l'achètent. Voilà.
C'est la bouffe industrielle.
Monsieur Cassegrain, restez comme vous êtes, s'il vous plaît, ne changez surtout pas.
La bouffe industrielle et les produits ultra transformés, c'est pas une obligation. Vous pouvez vivre autrement.
Non, mais il est quand même
si vous le faites, c'est que vous êtes content et donc vous acceptez de manger des trucs que vous ne connaissez pas. C'est tout.
Non. Une fois que, quand même, tu as dit ça, Barbara, tu as fait le procès de ceux qui achètent ces produits, néanmoins, c'est normal qu'il y ait un souci de transparence.
Mais c'est absolument.
Les produits vendus.
Non, mais c'est absolument nécessaire.
C'est l'industrie agroalimentaire. Vous voulez de la transparence.
Non mais
Fred.
Moi je pense qu'il faut partir de l'existant. On peut espérer que les gens se remettent à cuisiner. On peut espérer que les gens retrouvent le sens de la gamelle. Que les gens se disent viens on va manger, on va pas manger Cassegrain, etc. On peut espérer plein de choses. Le fait est, l'industrie agroalimentaire est là. Les individus utilisent ça. On va pas les culpabiliser plus que ça. Maintenant il appartient au pouvoir public de remplir leur mission. Et on en avait parlé au sein de l'agriculture, c'est la traçabilité. C'est pour cela que je me souviens de cet échange qu'on avait eu sur est-ce qu'il y a suffisamment de personnes à la DGCCRF pour faire en sorte que les contrôles aient lieu et qu'on sache d'où ça vient.
Non.
Et on sait bien que, bon, il y a eu un débat là-dessus, moi je pense qu'il n'y en a pas assez, mais la ministre disait que, bon, les choses étaient plus compliquées que ça. Ok, je veux bien l'accepter. Mais ce qui est certain, c'est que la base du volontariat, tout ça ne marchera pas. Et puis comme de plus en plus de gens utilisent ce produit, j'estime qu'il est absolument nécessaire de savoir, même si on ne cuisine pas, qu'est-ce qui arrive dans notre estomac et d'où ça vient. Et je pense que c'est légitime, surtout dans une société où on dit qu'il faut mieux consommer, etc., etc., etc. Donc moi, je dis que c'est absolument nécessaire. Et les petits trucs gadgets qui sont que du volontariat, ça ne mène nulle part.
Et je précise pour Mehdi, parce qu'il est à fond sur Cassegrain, que Cassegrain et Bonduel, c'est le même groupe. Hein.
Ah.
C'est le groupe Bonduel.
Ah.
Comme un groupe familial. D'ailleurs, c'est Monsieur Bonduel qui est le dirigeant.
Il y en a un qui joue le jeu et l'autre qui ne joue pas dans le même groupe.
Sans doute, peut-être.
Il y en a un qui est de prix.
Sébastien, bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Sébastien, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que ça vous pose un problème ou pas?
Ah, bah bien sûr. Non, mais sérieusement, avec les moyens technologiques qu'il y a maintenant, vous prenez un robot de n'importe quel prix de cuisiner. N'importe quel abruti cuisine.
Voilà.
C'est clair. N'importe quel. Et ça le fait tout seul. Alors qu'on ne me dise pas qu'il n'ait pas le temps, qu'il n'ait pas les choses
moi,
comme ça.
Moi, j'ai peur de brûler la barre.
Et à la fin, voilà. Ça coûtera moins cher en
et
plus.
Et ça coûtera moins cher et ils mangeront, on va dire, quelque chose, même en prenant des produits très basiques, quelque chose de correct. C'est là la différence. C'est qu'ils sauront ce qu'ils ont mis dans leur plat et ils mangeront quelque chose de correct. Même en prenant des produits basiques. Voilà. Et c'est tout. Après, bon, c'est vrai que moi, je peux pas me permettre de critiquer parce que je suis un cuisinier dans ma maison d'hôte. Mais franchement, faire ça, c'est simple, ça coûte moins cher et ça prend pas plus de temps. Voilà. Et vous programmez avec vos téléphones portables, avec ce que vous voulez, votre truc, ça le fait tout seul, les gars. Donc
d'accord.
Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas.
D'accord.
Comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà, quoi.
Oui. D'accord, mais une fois, en fait, là, on est en train de faire le procès des plats cuisinés, mais la question de savoir, est-ce qu'on peut quand même exiger de ces plats cuisinés un peu plus de transparence, comme on l'exige d'ailleurs maintenant de tous les produits, de savoir précisément d'où vient le légume qu'on mange dans un plat cuisiné, d'où vient la viande. Enfin, c'est voilà, ça me paraît pas complètement dingue.
Vous avez vu l'étude là qui est passé, il y a un laboratoire qui a étudié un plat cuisiné, ils ont été incapables de déterminer la viande qu'il y avait à l'intérieur.
Oui,
c'est
une
viande qui n'est même pas programmée. On ne sait même pas, ça doit être une viande de synthèse, je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
Non, ça doit être un mélange de dinde de poulet, ils mélangent tout, on ne sait même pas ce que c'est.
Alors attendez Sébastien, parce que Eric veut intervenir, il nous appelle de la Nièvre. Bonjour Eric.
Oui, bonjour camarade.
Alors mon cher camarade, est-ce que ça vous inquiète ce manque de transparence ou finalement vous dites de toute façon, on a quand même des règles d'hygiène qui sont assez strictes et on peut y aller quoi, vous achetez en confiance quoi.
Vous savez, la seule confiance en qui il faut avoir, c'est en soi-même. Mais bon, le problème c'est que moi je donne mon exemple, je travaille sur les chantiers. Du jour au lendemain, on peut très bien m'envoyer sur un autre chantier. En plus, je n'ai que 20 minutes le midi pour manger puisque notre entreprise a décidé de faire des journées continues. Donc ça veut dire que d'un jour à l'autre, déjà je ne sais même pas si j'aurai de quoi faire chauffer ma gamelle, donc j'achète ces saloperies aussi de Sodebo et tout ça. Mais quand j'ai la possibilité de faire chauffer, j'ai que 20 minutes pour manger, donc ça veut dire que je vais acheter un truc vite fait à faire chauffer. Et puis voilà. Donc finalement, la société de travail qu'on nous impose maintenant dans les entreprises, surtout dans l'industrie, nous force aussi un petit peu à ça. J'entends Barbara qui dit oui, il faut préparer la veille. Mais si je sais pas si le lendemain je peux me la faire chauffer ma gamelle, donc j'emmène quoi, des patates froides? Oui, je peux les manger, ça c'est sûr. Mais si j'emmène un bout de boudin ou un bout de ceci ou je me suis fait un pot-au-feu ou un bourguignon, je vais pas le manger froid, Barbara. Non. Vous êtes d'accord?
D'accord. Mais alors justement, qu'est-ce
qui... Pourquoi? Je comprends pas, parce que vous allez sur des chantiers et il n'y a pas une espèce de petit Algeco où il y a un micro-ondes?
Pas forcément.
Excusez-moi, ces questions du droit du travail, je trouve ça hallucinant.
Dans ces cas-là, Eric,
tu travailles dehors.
Non, mais je comprends pas pourquoi vous pouvez aller faire réchauffer un plat Sodebo, mais vous pouvez pas faire réchauffer votre propre plat. Je comprends pas.
Le plat Sodebo, ils te mettent dans le magasin où tu l'achètes, que ça soit Franprix ou des conneries comme ça. Il y a des micro-ondes qui sont mis à ta disposition.
Oui.
D'accord. Alors que pour que tu saches, Barbara, dans le droit du travail, le micro-ondes n'est pas obligatoire dans un Algeco. Il faut le savoir aussi.
C'est pas normal quand c'est sur un chantier où les gens ont 20 minutes pour manger. C'est pas normal.
C'est pas normal. Mais voilà, à un moment. Barbara, ça c'est le monde réel, c'est le monde qui existe, voilà. D'accord. Et tu as le monde parallèle, ton monde à toi, où tout est normal, où tout est voilà.
Et moi je te le dis,
il faut des micro-ondes. On va se balader dans ta nouvelle voiture, on va mettre un micro-ondes à l'arrière et tu vas brancher avec ton électricité.
Moi j'ai une dernière question à vous poser, Eric. Moi je voulais savoir dans ces cas-là, puisque vous dites,
pareil, rien qui est normal avec elle.
Une seconde, puisque vous n'avez que 20 minutes pour manger le midi, qu'est-ce qui guide votre achat alors? Est-ce que vous regardez derrière en disant là j'ai ça?
Déjà, j'ai pas vraiment le temps de choisir parce que j'ai que 20 minutes. Et c'est en fonction, est-ce que je peux me le faire chauffer ou pas?
Eric, je vais vous dire une chose. Je suis pas dans le même cas de figure que vous. Des fois, je prends la route. Je prends très souvent la route. Ouais. J'ai des longues distances à faire. Je déteste bouffer les sandwichs, vous savez, triangles dégueulasses des stations de service. Ouais. Je déteste les bouffer. Ils sont dégueulasses. Donc des fois, qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes. Vous savez, les pâtes que vous mélangez là et que vous chauffez. Ouais. Ou je prends les salades.
Pasta box.
Ou je prends.
C'est meilleur que les triangles.
Exactement. Ou je prends. Ça m'est même arrivé de prendre les boîtes de conserve, la salade.
César.
Salade mexicaine ou les trucs
comme ça.
Et je suis désolé, ça remplit le ventre. Et merci, au revoir. Je suis désolé. Et tu traces ta route et tu prends ta voiture et tu continues à aller les kilomètres et plus loin.
Merci, mon cher Eric. Eric nous dit désolé. Moi, entre les deux.
Le sandwich triangle, c'est le début des vacances.
Le sandwich triangle, c'est. Non, moi j'aime bien celui avec le petit pain brioché, les donuts.
Je suis d'accord, mais
ah, quelle horreur, tu manges plus de
saucisson et salami.
Parce que j'ai toujours faim. Un, c'est pas suffisant.
Ils sont énormes, il y a même le gigantique.
Il faut prendre les petits, tu glisses une tranche d'ananas.
T'es déjà en vacances.
La députée Maud Bréjean, députée Renaissance, pour commenter le Premier ministre Gabriel Attal.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur d'économie Frédéric Farah, avec Barbara Lefebvre, enseignante en histoire géographie, Mehdi Ghezard, qui est patron de PME. On va accueillir notre invité pour le Face au GG.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Bonjour, Maud Bréjean.
Bonjour, les grandes gueules.
Députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On voulait commenter avec vous ce matin ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal, hier chez nos confrères de TF1, en particulier concernant les impôts.
Je vais vous dire, j'ai deux lignes rouges. La première ligne rouge, c'est de ne pas augmenter les impôts des classes moyennes, des Français qui travaillent ou des Français qui ont travaillé toute leur vie et qui, gagnent toujours un peu trop pour avoir des aides, mais jamais assez pour pouvoir s'en sortir convenablement tout seul. Donc ça, c'est ligne rouge. Deuxième ligne rouge, je n'augmenterai pas les impôts pour ce qui permet de financer le travail des Français.
Bienvenue, Maud Brejon.
Merci.
Non, mais c'est une mise en bouche. Lundi, je crois que vous l'avez entendu, Bruno Le Maire était dans les grandes gueules.
Oui.
Il nous a dit il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et puis là, on entend Gabriel Attal qui nous dit il n'y aura pas de hausse d'impôts pour la classe moyenne. Donc, il y a des entreprises qui se disent « Ah bon, bah donc ça va être pour nous ». Il y a ceux qui sont au-dessus de la classe moyenne qui vont dire « Ah bah ça y est, on va encore payer ». Sachant que 10% des Français payent déjà 60% de l'impôt sur le revenu. Donc, on voudrait comprendre, est-ce qu'on n'est pas quand même en train de préparer l'opinion publique qu'il y aura bien des hausses d'impôts ?
Le Premier ministre a dit deux choses qui sont en fait notre cap depuis 2017. La première, effectivement, on n'augmente pas les impôts des Français, de ceux qui travaillent. On a même réduit les impôts, baissé les impôts des Français depuis 2017. Et en fait, c'est la moindre des choses. On n'allait pas demander aux Français de rembourser le quoi qu'il en coûte ou de rembourser le bouclier tarifaire qu'on leur a permis d'avoir ces deux dernières années. Puis il dit autre chose. Il dit, on touche pas à notre politique d'attractivité. Et il a parlé des entreprises. Parce que le vrai objectif, c'est le plein emploi. Le plein emploi, c'est bon pour les gens. Et puis c'est bon pour l'économie. Parce que
cette fiscale en plus.
Plus vous avez de personnes qui travaillent, plus vous avez de rentrées d'argent et moins vous avez de dépenses. Donc on ne varie pas ni de notre ligne sur les impôts, ni de notre ligne sur l'attractivité. C'est ce qui nous a permis de créer environ 400 000 entreprises l'année dernière, 2 millions d'emplois en 5 ans. Et donc ça, c'est extrêmement vertueux à tous les étages. Il dit une dernière chose, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a, notamment sur les énergéticiens, des profits très importants qui ont été faits.
Des super profits.
Il y avait une taxe qui existe, qui est la taxe sur la rente inframarginale.
Qui n'a pas beaucoup
rapporté. Pas rentrer dans le détail, mais qui devait rapporter plusieurs milliards et qui a rapporté quelques centaines de millions. Elle a, de toute évidence, été mal calibrée, donc se laisse la possibilité de recalibrer cette taxe.
Donc, mais les super profits, c'est uniquement pour l'énergie.
Là, on parle vraiment des énergéticiens qui, dans un contexte que vous connaissez très particulier, ont effectivement, pour certains, fait des profits plus important que la normale. Mais moi, je veux vraiment dire aux gens qui nous écoutent, vos impôts n'augmenteront pas. Et je veux dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, vos impôts non plus n'augmenteront pas. On ne touchera pas à la fiscalité sur les entreprises.
Alors, il
n'y
aura pas de hausse d'impôts, mais Emmanuel Macron, en 2022, lorsqu'il était candidat à sa réélection, a promis de continuer à baisser
de 2 milliards d'euros.
L'impôt des Français, et notamment les classes moyennes, toujours ces classes moyennes, de 2 milliards d'euros. Est-ce que cette baisse de 2 milliards
toujours
est maintenue
d'actualité.
Malgré le dérapage du déficit public.
Cette baisse de 2 milliards, elle sera maintenue avec un calendrier qui sera précisé en avril, puisque le Premier ministre a assuré qu'en avril, on aurait une vision pluriannuelle, donc d'ici à 2027, sur la répartition des dépenses, de telle sorte à ce qu'encore une fois, nos caps sur les impôts soient maintenus, et en même temps, on ait une maîtrise du déficit.
Et comment baisser les impôts
pour retrouver un déficit en dessous des
3%. Et un déficit. Explique aux Français.
Il faut avoir, d'une part, le courage de faire des réformes, et c'est ce qu'on va faire avec la réforme de l'assurance chômage, on y reviendra peut-être.
On va en parler.
Et puis, d'autre part, le courage de réinterroger les dépenses, parce qu'on a tendance à réfléchir en volume de dépenses, notamment en matière de dépenses sociales, mais pas en efficacité des dépenses. Or, moi, qu'est-ce que j'entends ? J'entends beaucoup de gens qui disent on a le sentiment de payer trop d'impôts et en même temps d'avoir des services publics qui sont pas à la hauteur. Donc, on voit bien, alors que les dépenses sociales ont doublé depuis un peu plus de 20 ans, que le compte n'y est pas.
On dépense toujours plus
que le rapport entre ce que vous dépensez et exactement. L'efficacité de ce que, ça vous rapporte. Voilà, bon. N'est pas au rendez-vous.
Barbara.
Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que vous êtes quand même aux affaires depuis 7 ans. Et que donc, c'est toujours agréable d'entendre en fait les représentants de la Macronie, parce que vous faites toujours des constats qui sont assez justes. C'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'on entend vos constats, et alors il faudrait que il y a qu'à Faucon. Moi, j'entends bien et je pense qu'il y a une vraie honnêteté, notamment chez vous, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est que nous, ça fait 7 ans qu'on entend parler de ça, et que la réalité pour nous. Alors, je sais, il y a eu le Covid, je sais, il y a eu l'Ukraine, je sais, il y a toujours des crises qui justifieraient qu'on repart à zéro et qu'on recommence les mêmes constats. Mais il n'empêche que là, on ne voit pas les choses s'améliorer et que même les gens, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, considèrent qu'il y a une dégradation, non seulement de leur niveau de vie, mais en plus, du coup, de leur morale, parce qu'on est aussi dans une ambiance d'insécurité chronique. Donc, je vous admire en partie parce que je me demande comment vous trouvez encore l'énergie de venir faire le service après-vente de quelque chose d'aussi flou que ce qu'on a entendu hier soir. Parce que hier soir, Monsieur Attal a fait comme vous. Il a fait des constats. Il nous a posé sur la table les paradigmes. Il nous a posé sur la table le constat. D'accord? Et puis ensuite, quand on lui a, les deux journalistes qui lui ont demandé, alors, et qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'attends les propositions.
Alors, vous avez un Premier ministre qui fait le JT de TF1 et qui nous dit « j'attends des propositions ». Donc là,
je voudrais juste répondre quand vous dites effectivement on est aux affaires.
Et Monsieur Macron depuis plus longtemps, ça fait 10 ans.
Depuis 7 ans, et puis ça me rappelle le passage de lundi où je crois que c'est vous Alain Marchal qui.
Il s'est énervé Alain.
Voilà, vous avez dit à Bruno Le Maire, mais vous êtes ministre de l'économie depuis 7 ans, ce qui n'est pas faux. Et donc rappelez brièvement
on
là.
On va rediffuser des bons moments
pour notre plus grand.
On va le retrouver.
C'est pas une demande de ma part. Non mais plus sérieusement, qu'on regarde dans le rétroviseur entre 2017 et 2020, on était repassé sous la barre des 3% de déficit. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a d'abord eu la crise du coronavirus. Moi, j'entendais pas beaucoup les oppositions ou les commentateurs politiques en 2020-2021 nous dire qu'il ne fallait pas prendre en charge les salaires des environ 10 millions de Français qui pouvaient pas se rendre au travail. Et ensuite, on a eu la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, et ce qui a entraîné notamment la hausse des prix de l'énergie. J'entendais pas grand monde dans les oppositions, notamment chez les Républicains qui nous font beaucoup de critiques en ce moment, nous dire à l'époque, il ne faut pas de bouclier tarifaire. Au contraire, j'entendais des demandes de davantage d'aide. Bon. Ces crises sont derrière nous.
Mais par exemple,
le moment,
donc, faut les payer.
Sur la question du marché, mais le marché de l'électricité européen que Monsieur Macron nous promet depuis 2 ans d'aller négocier à Bruxelles, il le fait pas.
Je termine. On est à un moment où faut savoir faire des choix. D'abord, les dépenses qui ont été des dépenses exceptionnelles pendant 2 ans, elles n'ont pas vocation à devenir des dépenses pérennes. Les boucliers tarifaires qui ont été mis en place, ils diminuent progressivement. C'est dur à porter. Moi, je me souviens de venir dans votre émission sur BFM pour expliquer la hausse des 10% des prix de l'électricité il y a 2 mois. Mais ça, en fait, c'est le fait qu'on revient progressivement sur le bouclier tarifaire. Et puis, il y a les réformes dont j'ai parlé. Et puis, il y a encore une fois, le fait de réinterroger, c'est ce que dit Bruno Le Maire, un certain nombre de dépenses sociales.
Frédéric, sur l'assurance chômage.
Sur l'assurance chômage. Vous n'avez pas cessé de la réformer. Bon. Et la dernière en date, c'est la rendre cyclique, en fonction de la conjoncture. Y a-t-il des études d'impact, des conséquences ? C'est-à-dire que quand on réforme l'assurance chômage, ça fait combien d'emplois ? Et est-ce qu'on peut le mesurer ou on ne le mesure pas, avant d'engager une nouvelle ? 2, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact, si on remonte aux lois Pénicaud, sur le nombre d'emplois que ça fait ? C'est-à-dire, on a modifié les règles de licenciement, ou on a barémisé le prud'homme. Qu'est-ce que ça fait qu'un emploi ? D'autant plus que, par rapport à la stratégie du gouvernement, je rappelle qu'en matière de fiscalité, lorsque la fiscalité a été diminuée lors du premier quinquennat, plusieurs rapports de France Stratégie n'avaient montré qu'il était difficile d'établir une corrélation indiscutable entre cette modification fiscale et plus d'investissement. Bon. Donc, qu'en est-il ?
Ça ruisselle pas, quoi.
Ça ruisselle pas. Ou ça ruisselle pas assez, ou ça ruisselle mal. Bon. Maintenant, qu'en est-il de ces réformes ? Et qu'attendre de cette réforme ? Est-ce que c'est de là que on va combler les déficits en disant que c'est de ce côté-là que les choses peuvent se régler ? D'autant plus que c'est très curieux, c'est ressusciter des vieilles choses. Je rappelais tout à l'heure dans le débat qu'entre 92 et 2001 avait existé en France l'allocation unique dégressive. Le bilan de ça, je m'en souviens très bien, bof, ça n'avait pas été convaincu, grand monde, et ça n'a pas marché, c'est arrêté. Est-ce que on n'est pas en train de ressusciter un vieux machin qui n'a pas marché, sauf qu'on va le rendre 2.0 pour le rendre plus moderne en tant que tel. Et en termes, dernière chose, des réformes structurelles, il y en a eu un nombre incalculable de nos services publics, de l'hôpital. Que ça soit votre gouvernement ou les précédents, ils n'ont eu de cesse de mettre en œuvre ces réformes structurelles. Quel est le bilan aussi ? L'étude d'impact, on l'attend.
Alors, allez-y, on recycle des vieilles recettes qui n'ont pas marché.
Bon, alors, déjà, ce que je voudrais dire en réponse à moins votre intervention, d'ailleurs, que beaucoup de critiques que j'ai pu entendre formuler depuis hier soir, il n'est pas question de s'en prendre aux chômeurs. Il est question de s'en prendre au chômage. Moi, j'ai grandi et je suis d'une génération qui a entendu parler de la courbe du chômage de façon quasiment continue depuis l'âge que je... En tout cas, très jeune, jusqu'à quelques années et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Les réformes qui ont été mises en place, tant sur le chômage que sur les aides aux entreprises pour leur permettre d'investir, pour leur permettre de recruter, elles ont eu un effet extrêmement mesurable. C'est celui du chiffre du chômage. Et le chômage a largement baissé par rapport à ce que c'était il y a encore plusieurs années de ça. Or, le chômage de masse a été un fléau.
C'est lié à la croissance, c'est pas lié à vos réformes.
A été un fléau pendant des années en France. Si, quand, bah bien, excusez-moi, quand on permet aux entreprises d'investir, quand on accompagne les entreprises
et quand on crée du faux emploi comme les dizaines de milliers de contrats d'apprentissage pour les jeunes et on fait passer ça pour de l'emploi, non.
L'apprentissage c'était une très bonne chose.
Maud Bréjon, est-ce qu'il a été prouvé qu'en réduisant la durée d'indemnisation, les gens reviennent plus rapidement au chômage? Ça voudrait dire, si c'est le cas, au travail, pardon. Ça voudrait dire que finalement, ils attendent un peu le dernier moment pour reprendre un boulot. Ils profitent de leurs 18 mois avant de reprendre un boulot. C'est ça que ça sous-entend.
Mais parce que on a aujourd'hui un système, et c'était le cas encore davantage avant les réformes qu'on a fait, qui n'est pas suffisamment incitatif pour le retour vers l'emploi. Or, on a
jusqu'au bout de leurs droits avant de commencer à se dire.
Donc c'est bien
d'un côté.
Attendez.
On a d'un côté des règles. On a d'un côté des règles qui étaient très souples. Et de l'autre, des chefs d'entreprise. Et là, vous pouvez aller dans l'ensemble des circonscriptions de tous les députés de France et l'entendre, qui ont du mal à recruter, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans l'industrie, qui est un secteur que je connais bien. On a des besoins absolument colossaux. Et donc, il faut bien qu'on arrive à faire converger ces deux points. Ça ne marche qu'à
donc
une condition.
Donc, c'est le comportement du chômage.
Les personnes qui sont au chômage sont accompagnées. Accompagnées et non pas victimisées. Accompagnées par la formation.
Est-ce qu'ils le sont suffisamment?
Accompagnées par la formation. On a mis en place des dispositifs de formation importants. Tout ce qui a été fait notamment avec la création de France Travail, qui doit permettre d'avoir un meilleur suivi des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Je pense notamment aux chômeurs de longue durée pour essayer de comprendre quels sont les freins à l'embauche, quels sont les freins à l'emploi. Pourquoi est-ce que on a des gens qui d'une part ont du mal à trouver et puis lorsqu'ils trouvent un travail, ont du mal à y rester.
C'est pas seulement pendant la période d'activité. C'est aussi à l'école, c'est l'orientation. Parce que vous parlez de l'industrie, on ne va pas s'improviser tout d'un coup salarié de l'industrie. Donc c'est une question de formation, d'orientation, peut-être d'ingénieur. On n'en a pas suffisamment, notamment chez les femmes. Et ça, est-ce que vous avez progressé en la matière?
D'abord, il faut que les chômeurs soient correctement suivis, qu'ils aient accès à des dispositifs de formation qui soient efficaces, qui soient en adéquation avec ce qu'eux souhaitent faire. Et puis ensuite, il y a un principe de droit et de devoir, il y a un principe de responsabilité. On peut pas accepter d'avoir d'un côté des entreprises qui cherchent du travail, d'un côté des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'emplois qui restent non pourvus chaque année, et en même temps, un chômage en France qui reste aujourd'hui au-dessus des 7%, d'accord, et qui tend d'ailleurs à remonter très légèrement. Je pense que c'est vertueux et que c'est vertueux pour tout le monde.
C'est vertueux
sur le plan économique. Oui. On parlait du déficit. Mais c'est aussi vertueux pour les personnes qui vont trouver un travail. Moi, je crois qu'on est plus heureux aujourd'hui quand on travaille que quand on est en dehors de l'emploi.
Tu peux nous envoyer une vacherie? Je rappelle que le changement de Pôle emploi en France Travail, ça a coûté 2,5 milliards.
Ce matin chez Apolline de Malherbe, une salariée de France Travail Pôle Emploi expliquait, ils reçoivent des indications et des contre-indications tous les quatre matins. Ils savent même plus eux-mêmes ce qu'ils doivent faire.
D'autant plus que je rappelle que ce discours de l'accompagnement de la formation, c'était le discours qui a présidé à la création de Pôle emploi il y a plus d'une dizaine d'années, en disant que la NPE ne faisait pas de boulot et que Pôle emploi devait le faire. Et je me rappelle qu'au tout début de Pôle emploi, j'espère que ce ne sera pas comme ça avec France Travail, un conseiller gérait 647 dossiers. Donc ce qui était absolument, et à la fin on a créé de l'emploi à l'intérieur de Pôle emploi pour permettre la gestion. Alors le problème,
surtout que maintenant France Travail, ils doivent se mettre en conformité avec le bassin d'emploi, donc en plus il faut qu'ils soient des spécialistes de leur propre territoire et qu'ils aient des informations qui leur remontent. Mais est-ce que sur le terrain les chefs d'entreprise jouent le jeu pour être en communication avec France Travail aussi?
Tu fais des demandes à Pôle emploi. Vous restez avec nous?
Si vous me le permettez, il reste encore
un quart d'heure, 20 minutes de discussion dans les grandes gueules avec Barbara Lefebvre, Mehdi Ghezard, Frédéric Farah.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Nos trois GG, nos deux enseignants, Barbara Lefebvre, professeur d'économie, et Frédéric Farah, professeur d'histoire-géographie. À moins que ce ne soit l'inverse.
C'est l'inverse, monsieur.
Oui, bien sûr. Et Mehdi Ghezard, patron de PME. Mehdi, vas-y, députée Renaissance.
Madame la députée, moi je suis plutôt d'accord pour qu'il y ait une refonte du système d'allocation
chômage. Pour moi, il y a des personnes qui profitent du système, comme dans... Attention, je n'en fais pas une généralité, loin de là, mais il est évident que quand vous donnez trop de délais pour retrouver du travail, ben forcément, il y a une certaine partie de ces personnes-là qui en profitent pour tirer les délais jusqu'à jusqu'au bout. Moi, la question que j'ai à vous poser, elle est un peu plus personnelle. En tant que député, vous avez eu, il y a 2 mois, une augmentation de 300 euros. Tous les députés ont une augmentation. Ah, pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'on va jouer sur les mots.
C'est des frais de mandat.
Des frais de mandat, une rallonge de frais de mandat de 300 euros supplémentaires. Comment, en tant que député, ou. Et 700 euros pour les sénateurs. Comment, en tant que député ou sénateur, on est en train de demander, et encore une fois, je le dis et je le redis, je suis pour la réforme de l'assurance chômage. Vous demandez, et le Premier ministre, en interview hier, demande aux Français de se serrer la ceinture. Aux gens qui sont au chômage, donc les personnes les plus précaires, de se serrer la ceinture, alors qu'il y a moins de 2 mois, nos représentants politiques, qu'ils soient sénateurs et députés, se font une rallonge, pour certains, de 300 euros, pour contrer l'augmentation et l'inflation.
Alors, réponse, alors, excusez-moi,
très
fini,
important.
J'ai pas fini.
Un, pardon.
Excusez-moi, madame la députée.
Vite, dépêche-toi.
Non, mais c'est important de le préciser, parce que moi, j'aime bien dire les choses. Et deuxième chose qui me paraît un peu, quand même, un peu folle, mais vraiment folle, c'est, on a dit comme quoi on allait resserrer le gouvernement. Rappelez-moi combien ils sont dans le gouvernement actuellement.
Entre 5.
Merci, madame la députée. Je vous écoute, madame la députée.
Non, sur l'augmentation des frais de mandat.
C'est des frais en plus.
Première chose importante à préciser, c'est absolument pas une augmentation de salaire. Hein. C'est une augmentation qui est sur les frais, et les frais, vous devez justifier chacun des frais que vous faites, comme toute personne en entreprise, c'est-à-dire que vous avez vos tickets de caisse, vos justificatifs, et vous êtes contrôlé dessus par
un déontologue. Combien les frais des députés ?
Ça, c'est la première chose.
Ils sont combien les frais des députés ?
Attendez, laissez-moi terminer. La seconde, l'augmentation dont vous parlez, elle a été décidée en bureau de l'Assemblée nationale, et je le précise quand même, validée par l'ensemble des partis.
Je suis d'accord. Voilà. Bah oui, c'est pour ça que c'est une honte nationale.
Je pose un cadre un peu formel pour qu'on sache de quoi on parle.
C'est pas une erreur.
Maintenant, est-ce que c'était à minima une grande maladresse dans la période?
Non, une honte.
Moi, je pense que oui.
Une honte.
Voilà. Non, moi, je pense que oui. Je pense que il y a des choses qui sont compréhensibles ou pas de la part du grand public. Après, on peut essayer d'expliquer, de rationaliser les choses, de parler, d'expliquer ça effectivement par l'inflation. Ça peut être compris ou pas, mais dans un moment où on sort d'une inflation très importante sur les denrées alimentaires, sur l'énergie, et où les gens se serrent la ceinture, je comprends, mais complètement, que ça ait pu étonner, si ce n'est choquer.
Et que 2 mois après, on dise aux gens qui sont en précarité de travail, bah attention, on va vous baisser votre...
Maintenant,
alors que je suis pour, attention, je vous le répète encore une fois.
Attention, en termes de volume global de dépenses, on parle quand même de deux choses qui n'ont rien à voir.
La symbolique
a son importance en politique.
Après, il y a une question quand même, c'est que Emmanuel Macron a forgé sa crédibilité, notamment face à son adversaire Marine Le Pen, aussi bien en 2017 qu'en 2022, sur sa capacité à savoir gérer l'économie française.
Le Mozart de la finance.
Et que les Français, finalement, ont préféré donner les clés du coffre, en quelque sorte, à Emmanuel Macron plutôt qu'à Marine Le Pen. Et là, patatras, 7 ans après, dérapage public, dérapage des déficits records, une dette record, malgré des taux de prélèvement records et des dépenses sociales aussi qui n'ont jamais été aussi importantes. On nous a trompé sur la marchandise, en fait. Emmanuel Macron, c'est un amateur.
Non, je pense que c'est tout le contraire. Je vais redire ce que j'avais dit. D'abord, sur les 3 premières années hors crise, on était sous les 3% de déficit. Donc, les choses étaient tenues. Le budget était tenu. Et ensuite, il y a eu la crise du coronavirus. Évidemment qu'il fallait y répondre. Tous nos voisins n'ont pas aidé leurs concitoyens.
Oui, mais peut-être que tous nos voisins ont été un peu plus prudents. Moi, par exemple, j'étais contre le fait d'avoir donné les aides Covid à des grandes entreprises.
J'entendais pas beaucoup de monde à l'époque nous expliquer qu'il fallait pas aider les commerçants, qu'il fallait pas payer le salaire des enseignants qui n'ont pas pu aller travailler, etc., etc. Non, mais moi, je vais vous dire.
Vous le savez, on connaît tous des chefs d'entreprise qui n'avaient jamais autant gagné bien leur vie que pendant le Covid.
Il faut quand même se rappeler ce qui a été le coronavirus.
Le confinement
du jour au lendemain, ça a nécessité des mesures absolument exceptionnelles.
Mais ça existait ailleurs,
qu'on n'avait jamais vécu.
Il y a d'autres pays du monde qui n'ont pas fait ce que nous on a fait, et qui s'en sortent mieux.
Moi, madame, je vais vous dire, je suis fière d'appartenir à une majorité qui a protégé les Français et qui l'a fait probablement bien davantage qu'ailleurs.
Protégé à court terme, mais à long terme,
si on l'avait pas fait à l'époque, aujourd'hui, le chômage serait bien plus important et donc la dépense bien plus importante.
Pourquoi expliquez-vous que ce qu'on connaît, malgré tout ça, le Covid, il a frappé le monde entier. Donc on peut se comparer, c'est ça qui est intéressant, et que en Europe, on est le maillon faible avec la Grèce et l'Italie sur la dette, sur le déficit, alors que les autres pays ont connu exactement la même
situation. On a davantage aidé nos concitoyens sur le Covid. On l'a aussi davantage fait par rapport à l'inflation. L'inflation était moins forte en France que ce qu'elle n'a été ailleurs parce qu'on a massivement accompagné l'économie. Le bouclier tarifaire qui a coûté 25 milliards l'année dernière.
Donc la politique du chèque, c'est ça qui fonctionne.
Non, mais c'est pas de la politique du chèque, madame, de payer. Aider les gens et permettre aux gens de payer leurs factures et de pas avoir froid l'hiver, j'appelle pas ça la politique du chèque pour ma part.
La facture de gaz a été multipliée par 7 ou 8, alors carburant, c'est la question.
Mais je me rappelle avec rappelez-vous le nombre de personnes qui nous demandaient de faire encore plus à l'époque. Je me souviens de Duplex avec monsieur Bertrand notamment en direct des Hauts-de-France, nous expliquer que vraiment on était des rapiens et qu'on donnait rien aux Français. Les mêmes aujourd'hui viennent nous dire non mais attendez, vous avez beaucoup.
Et on est parce qu'on est tous accros aux dépenses publiques.
Écoutez,
tous
il y avait des aides nécessaires. Ça, c'est la première chose.
C'est vrai.
On est sorti progressivement de ces aides. Et aujourd'hui, il y a un principe de responsabilité qui doit nous amener à réduire nos dépenses, notamment les dépenses sociales, à ne pas augmenter les impôts et à continuer à réformer pour aller vers le plein emploi. Parce qu'à la fin, c'est quand même ce qui nous permettra, de combler le déficit. Et je vais quand même terminer. Parce que j'entends beaucoup de choses, moi, à l'Assemblée nationale, de remarques sur la façon dont la situation budgétaire est gérée, de la part de parlementaires qui passent leur temps à nous demander des dépenses. Quand j'entendais... je crois que c'était monsieur Marleix et monsieur Ciotti demander la démission de Bruno Le Maire. Je voudrais quand même rappeler à tout le monde ici que lors de l'examen du dernier budget en octobre-novembre dernier, l'intégralité des propositions des Républicains coûtait plus de 120 milliards d'euros.
La droite est dépensière aussi en France.
Donc,
hein, on le sait.
On voit bien que chacun est en face de ses contradictions. D'un côté, quand ça va pas, tout le monde nous presse pour aider encore et davantage les Français, et on l'a largement fait. Puis ensuite, on vient nous expliquer, mais mon Dieu, que n'avez-vous pas dépensé.
Alors, vous avez cité Bruno Le Maire.
Donc moi, j'espère qu'on aura une majorité à l'Assemblée nationale pour voter les réformes qui sont nécessaires et pour faire les réductions de dépenses qui sont nécessaires lors du prochain
budget. Attendez, parce qu'on a cité Bruno Le Maire et vous avez vous-même dit que c'était un bon moment, l'échange entre Bruno Le Maire et Alain Marchal. On l'a retrouvé, on écoute.
Les gens qui bossent n'arrivent plus à s'élever par le travail. Disent qu'à la fin du mois, dans le fond, ils s'en sortent pas.
Enfin, vous êtes aux manettes. Mais vous êtes aux manettes. Avec un président qui a écrit Révolution. Enfin, les Français. Faut pas étonner qu'ils vous foutent une branlée. Mais vous êtes aux manettes avec Emmanuel Macron qui a écrit Révolution depuis 2017. Et puis, on est là à faire le contrat.
Votre langage a le mérite d'être cash.
Alors, est-ce que vous allez prendre, entre guillemets, une branlée aux européennes?
J'aime bien. D'abord, ça m'a fait rire et votre voix, la voix d'Alain Marchal m'a fait rire dans la séquence.
Il est monté dans les tours, là.
Pas souvent.
Votre question, c'est, pardon, est-ce qu'on va...
Vous allez prendre une raclée ou une grosse défaite?
Une question supplémentaire. Est-ce que c'était le meilleur moment de ramener cette loi, enfin, de proposer cette proposition avant les élections européennes?
Les notations Moody's.
Question sur les élections européennes. D'abord, est-ce que c'est mal parti?
Quand on fait de la politique, on part pas perdant par principe. Il y a au fond un choix clair qui sera fait par les Français le 9 juin prochain, je rappelle la date, entre deux blocs qui s'affrontent. Et ces deux blocs-là, on les retrouve en France, mais comme on les retrouve dans beaucoup de pays au sein de l'Union européenne, ce sera le cas en Allemagne, ce sera le cas en Italie, ce sera le cas en Espagne. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse une campagne projet contre projet. Expliquer pourquoi, à mon sens, la France ne pourra pas maintenir son rang mondial aujourd'hui si elle n'est pas dans une Europe qui est forte, qui est puissante, qui est écoutée à l'international.
Vous avez un bilan.
Et ma conviction, qui est également que sur un certain nombre de sujets, je pense à l'écologie, je pense à l'immigration, les réponses, elles sont notamment européennes. De l'autre côté, il y a un bloc, qui est pour moi un bloc nationaliste, populiste, qui est incarné aujourd'hui par Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui, mais c'est mon avis, porte un projet de rétrécissement du pays.
Et d'isolement
de la France.
Comment vous expliquez que c'est ce bloc-là qui est en dynamique et qu'aujourd'hui les gens ont plus envie de croire Bardella sur l'Europe que Valérie Ayé?
Parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand on est en responsabilité, effectivement.
Peut-être que le
On doit parfois prendre des décisions difficiles parce qu'on est confronté à des situations qui sont difficiles. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le budget, vous pouvez dire noir le lundi, blanc le mardi, finalement à la fin tout le monde l'a oublié. Nous on a un bilan. Tout n'a pas forcément été parfait.
Puisque M. Macron avait promis le marché de l'électricité à l'Europe.
Mais pourquoi on ne l'a toujours pas fait? Mais pardon, la sortie du marché de l'électricité, c'est une connerie, mais sans...
Dites-le, M. Macron, c'est lui qui nous l'a encore promis il y a encore un an et demi.
Et le président de la République n'a jamais parlé de sortir du marché de l'électricité.
C'est revoir le mode de calcul.
Il s'agit de revoir le mode de calcul, que les prix ne soient plus indexés sur le gaz. Et ça passe effectivement par une négociation européenne. Maintenant, sortez du marché.
Non, mais c'est toujours pas fait la renégociation du prix.
On rediscutera de ce qui se passe.
Est-ce que la renégociation du prix est faite? Est-ce que Monsieur Macron, au lieu d'aller tenir la main de Lula en Amazonie et de regarder les petits colibris, est-ce que il est allé à Bruxelles voir son amie Ursula pour essayer de mettre tout le monde autour de la table et de dire on va renégocier les tarifs?
Ça fait des mois qu'on y travaille, madame.
Ça fait des mois
que Bruno Le Maire le fait. Et le prix, pardonnez-moi, la question du prix de l'énergie, elle n'est pas uniquement due au marché européen. Elle a été aussi due à ce qu'on n'a pas suffisamment produit en France.
Merci, Maude Brejean. Merci d'être passé par les GG, je rappelle.
Parle-moi du colibri.
Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine.
C'est très juste.
Merci d'être venu répondre
Barbara, aux questions. Nous t'aimons de tout notre cœur.
D'être venu répondre aux GG.
Pardon à la marche.
On se retrouve demain. Demain, nous serons avec l'éducateur Étienne Nibig, le médecin généraliste Jérôme Marty, avec la coach de vie Joël Dagosséry. Demain, on ouvrira le coffre dans toutes les tranches d'RMC avec je l'espère, l'un d'entre vous, j'en suis sûr même, qui gagnera 50 000 euros. Si ça pouvait être dans les GG, ce sera encore mieux, bien sûr.
Ah oui, t'es chez moi la dernière fois.
Oui, justement, tant que ça change.
Ah non, mais je pense que ce sera encore chez moi demain.
Le changement, c'est maintenant. Alors.
Exactement. Oui, alors donc, écoutez, nous allons parler de Gabriel Attal, nous qui mise désormais sur la valeur travail. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de se remettre à la valeur travail?
Mais dis donc.
Hein?
Et hier, il a parlé de ton sujet de prédilection.
Alors,
la semaine de 4 jours.
La semaine en 4 jours.
En 4 jours.
Tu gardes le même temps de travail.
Chez celle de
la semaine.
Bien sûr. Ça, c'est notre marotte, vous le savez.
En 4 jours.
La valeur travail, ce sera dans un instant avec vous. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? On en parle donc au 32-16. On va évoquer la mairie de Nice qui souhaite faire intervenir l'armée dans un quartier qui est miné par l'insécurité et le trafic de drogue. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de faire intervenir l'armée dans les quartiers? Et puis, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la tendance du co-achat. C'est d'acheter, en fait, une résidence secondaire, mais à plusieurs.
Oula.
Avec des amis, avec de la famille,
avec des inconnus.
C'est génial. Vous savez pourquoi? Bien sûr que je suis tentée. Vous pouvez acheter moins cher et pour beaucoup plus grand.
Mais nous, au GG, on pourrait le faire.
Tu divises par 8.
On fait un steak,
on
va me tirer dessus.
On fait deux frigos, un frigo vegan et un frigo
viandard.
Là, ça commence mal.
La tendance du co-achat. Venez en débattre avec Estelle.
Exactement, enfer au paradis.
À demain 9h, tout de suite, c'est Estelle midi jusqu'à 15h.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.